Bonjour, nous sommes le 21 juin 2024 et donc aujourd'hui c'est l'été. Mais ce soir, bien entendu, la fête de la musique. Alors allez-y, si vous n'y allez jamais, allez ce soir, s'il pleut pas trop fort, parce que on sait pas l'année prochaine, ce genre de choses pourraient être interdites. Alors réfléchissez-y. Il fait pas très beau, il fait pas très beau là où je suis, il fait pas très chaud non plus, mais il vaut mieux être ici qu'aux États-Unis, parce que bon, ça fait pas la une des journaux en Europe, le temps qu'il fait aux États-Unis, mais il y a pas mal d'endroits où on est aux États-Unis. Ça touche en ce moment 65 millions de personnes, pas mal d'endroits où la température dépasse depuis 3 jours, dépasse les 100 degrés Fahrenheit. C'est facile à retenir pour nous et pour les enfants là-bas. Quand on prend sa température et que ça dépasse 100, qui est 37 degrés, il faut savoir qu'il faut faire attention. C'est beaucoup plus simple pour nous, il faut d'abord retenir 37. Mais donc, il y a beaucoup d'endroits aux États-Unis aujourd'hui où la température est au-dessus de 37 degrés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas des endroits où elle ne soit pas à 42, à 45. Et le pays est en train de prendre conscience. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui meurent. Parce qu'on commence à réfléchir sur le fait de distribuer des bouteilles d'eau dans des endroits où il fait beaucoup trop chaud. Alors, en ville, voilà, on trouve des endroits où les enfants jouent, on trouve des endroits où il y a des travailleurs qui travaillent quand même sur des chantiers et des volontaires vont avec des bouteilles d'eau. Et le plus dur, c'est dans les campagnes parce que c'est très dispersé et il y a quand même des vieux. Petite remarque intéressante. Il y a des lois là-bas, comme chez nous, disant qu'on ne peut pas couper l'électricité aux personnes pendant l'hiver parce qu'elles ont besoin du chauffage. Vu que si on les empêche d'avoir accès au gaz et à l'électricité, on peut les faire mourir. Dans des endroits comme le Texas, voilà, Californie, New Mexico, Arizona, et encore d'autres États du Sud, Louisiane, Floride, Alabama, on peut vous couper l'électricité l'été, parce qu'on se dit, voilà. Sauf que, on tue des gens maintenant en leur coupant l'électricité l'été. Pourquoi? À cause de l'air conditionné, de la clim. Voilà. Ah, on n'a pas pensé à ça. Ah, il va falloir aussi peut-être inventer des lois qui permettent pas. On ne pourra pas couper l'électricité aux gens. Pas l'hiver, parce qu'il fait froid, et pas l'été, parce qu'il fait trop chaud. Bon, ce n'est pas notre problème pour le moment. Vous avez pu voir peut-être que je ralentis un peu l'activité sur le blog. Et quand ça se passe comme ça, vous pouvez vous dire deux choses. Il est en vacances, et là vous savez que c'est probablement pas le cas, ou bien il est en train de travailler sur autre chose. Et dans ce cas-ci, je vais vous donner la raison, mais elle est évidente, la plupart d'entre vous aura pu la deviner. Je participe à ma manière aux législatives en France. De quelle manière? On me consulte, voilà. Et c'est pas un parti de gauche, c'est plusieurs partis de gauche. Sur certains sujets, c'est trois partis de gauche. Et je ne refuse bien entendu pas mes avis. Sur quoi est-ce qu'on me consulte? Eh bien, vous savez, le programme économique, financier de la gauche est très attaqué. On le dit, voilà, déjà qu'avec des gouvernements, M. Macron et ses premiers ministres, on rétrograde la note de la France du point de vue, voilà, de la confiance qu'on peut lui accorder à l'économie en France. Surtout la confiance qu'on peut avoir dans les obligations d'État. Bon. Alors déjà, avec les gouvernements qu'on a, il y a déjà les notateurs sont déjà sur le qui-vive. Alors vous pensez bien, si un programme plus généreux envers les gens, qui n'aille pas chercher l'argent là où il se trouve, si mon regard, bien entendu, il va y avoir des problèmes sur les marchés financiers. Alors, bien entendu, on me consulte sur ces questions-là. Pourquoi? Ben, vous le savez, parce que je suis considéré comme comme un expert. La manière dont j'avais pu analyser la situation qui précédait la crise des subprimes, et puis pendant toutes les années qui ont suivi, la manière dont j'ai rendu compte en direct de ce qui se passait. de manière, bon, vous vous en souvenez sans doute, de manière très didactique en expliquant des, voilà, des choses assez compliquées, des outils financiers compliqués, des opérations compliquées, qu'est-ce qui était de la spéculation et qu'est-ce qui n'en était pas, comment est-ce qu'un prix se forme, toutes choses que vous ne pouviez pas trouver dans les livres. Bon. Pourquoi? Parce que d'une part, on n'avait pas compris, et ceux qui l'avaient compris, c'est-à-dire les gens qui travaillaient à l'intérieur des banques, n'avaient pas intérêt à ce que ce soit connu de la concurrence. Bon, alors, on consulte sur ça, bien entendu. On me consulte aussi, et ça va de soi également. On a compris que je m'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle et à l'impact sur l'emploi. On me demande quels sont les secteurs les plus touchés, qui dans ces secteurs, quelles sont les populations qui sont les plus susceptibles de voir les choses changer. Et là, ce sont les travailleurs intellectuels, mais pas du top. Voilà, les gens des niveaux moyens et inférieurs, ce sont eux dont la productivité est boostée, comme on dit aujourd'hui, considérablement par l'aide que ces LLM, ces grands modèles de langage, peuvent offrir. Est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'emplois qui disparaissent? Non, parce que ce sont plutôt des tâches. Et une personne qui peut gagner du temps sur une tâche peut aller travailler sur quelque chose d'autre, ce qui n'est pas très compliqué, parce qu'en général, de toute manière, les gens sont débordés et on peut, si on sauve un peu si on peut épargner un peu de son temps sur une tâche, on peut aller travailler sur une autre. Alors voilà, ça, ce sont les choses sur lesquelles on me consulte. On a raison de me consulter. Si vous faites partie d'un parti de gauche qui ne fait pas partie de ceux qui me consultent en ce moment, n'hésitez pas à m'appeler. On trouve facilement mes coordonnées sur mon blog et j'arriverai à dégager encore un peu de temps pour vous parler de ces choses-là et voilà, de vous donner les conseils qui sont nécessaires. Bon, alors certains d'entre vous se sont dit, est-ce qu'on est le 7 avril? Est-ce qu'on consulte vraiment Jorion sur ces trucs-là? Eh bien, non, on n'est pas le 1er avril, mais la réalité, c'est qu'il n'y a absolument personne qui me consulte sur ces questions-là, ni à gauche, ni ailleurs. Je suppose qu'ils pensent qu'ils savent exactement tout ce que je viens de déjà dire, ou bien qu'on trouve tout ça sur mon blog, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Parce que des discussions de ce type-là ont eu lieu avant, à d'autres époques. Et qu'est-ce qui fait reculer les gens, mes interlocuteurs? C'est parce que une chose en entraîne une autre. Dès que j'explique un petit peu un truc, ça conduit à dire, on va peut-être penser au revenu universel de base. Et là, vous le savez bien, j'ai fait des critiques approfondies. J'ai montré pourquoi ça peut pas marcher avec des arguments que j'ai expliqué, que ça pompe encore davantage sur l'économie et que ça accroît la richesse encore de ceux qui sont déjà les plus riches. Parce que ça saupoudre tout le monde, et en particulier ceux qui n'ont pas besoin, parce qu'il y en a quand même dans nos sociétés des gens qui n'ont pas besoin de ça. Donc c'est pas une bonne mesure, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ces conversations avec moi? Parce qu'on sait qu'au bout d'un moment, 5 minutes, 10 minutes, on va tomber dans des eaux de choses dont mon interlocuteur, mon interlocutrice va me dire, oui, mais ça vous comprenez bien, on ne peut pas le faire. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas le faire. C'est des choses auxquelles je pense depuis très longtemps. C'est devenu surtout visible, bon, il y avait des livres avant, mais c'est devenu surtout lisible parce qu'avec l'Internet, j'ai pu faire un blog et répondre à ça. Alors vous me direz, oui, mais donc on ne peut pas être tout à fait pessimiste parce qu'en réalité, vos idées, elles sont connues, elles ont percolé dans la société et on les retrouve ici ou là, etc. Je suis même pas sûr que ce soit le cas. Il y a des gens, oui, il y a des gens qui savent ce que j'ai dit et qui peuvent me le répéter. Et même des gens, je dirais, qui ont accès au pouvoir. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils en tiennent compte dans ce qu'ils font? Absolument pas. Absolument pas. Ces idées sont là, je les vois. Maintenant, je les vois. Et certains d'entre vous me font la remarque. On demande à ChatGPT, à Claude 3, qu'est-ce que vous pensez de telle question économique? Et oh, c'est du Jorion qui sort. Bon, alors, c'est pas parce que. Bon. Ces trucs-là savent qui je suis. Si on demande qu'est-ce que Jorion pense de tel et tel sujet, ils peuvent vous le dire. Il y a un an et demi, je faisais parfois des erreurs de fait. Bon, ça a disparu. Il y a beaucoup moins de ce qu'on appelait hallucination, qui était juste des bourdes. Mais ce qui épate les gens, c'est que les raisonnements que la machine fait, ce sont les mêmes que les miens. Bon, alors, où est le miracle? Ces machines ne lisent que du Jorion. Non, c'est pas tout ça. Il y a un élément commun entre la manière dont moi je réfléchis depuis un moment et la manière dont elles réfléchissent. Faire exploser la pensée en silo, bah, c'est tout simple. Prendre l'information où elle est. Qu'est-ce qui m'a permis de faire ça? Pourquoi je suis entré là-dedans depuis le départ? Parce que j'ai dû faire de l'économie sans avoir un diplôme d'économiste au moment où j'ai fait mon travail de terrain à l'île de Wight avec les pêcheurs. Bon, je faisais confiance aux économistes. J'ai dit voilà, on va regarder les prix et on va retrouver la loi de l'offre et la demande. Manque de peau, non, la loi de l'offre et la demande, ça ne marche pas pour expliquer les prix. Bon, alors il fallait trouver autre chose. Alors on est allé voir, je suis allé voir chez Marx et compagnie, tout ça c'était le même modèle. Je suis allé voir chez Aristote. Ah, ben tiens, oui, Aristote, il a un truc qui marche. Voilà, penser en silo. C'est considéré comme de la philosophie. Considéré comme de la philosophie. Après, quand j'apprends la finance, voilà, j'entre en finance véritablement en 1990, en février 90. Bon, j'y serai, quoi, pratiquement 20 ans. Et là, bon, j'avance sur le tas, hein, pour la raison que je vous dis. Les livres de théorie financière sont d'aucun intérêt parce qu'ils parlent pas de ce qui. Si, ils vous proposent des idéologies qui vous parlent de choses et d'autres, mais c'est pas ce qui se passe vraiment. À l'intérieur même des banques, là, il y a un savoir oral, oui. La plupart des banques fonctionnent avec des gens qui savent à l'intérieur comment ça marche. Mais tout ça n'a jamais été écrit et surtout, tout ça n'a jamais été mis en système. Et puis, c'est chacun individuellement, chacun de ces grands spécialistes que moi j'ai rencontrés dans les banques à très bon niveau, chacun a réinventé la finance pour son propre usage. Et parfois, il y a des erreurs. Alors, tout ça ne colle pas nécessairement ensemble. Mais voilà, quand on va à l'intérieur de la finance, qu'on réfléchit à ce qu'on voit et puis qu'on en ressort, là, on a quand même quelque chose, voilà, quelque chose qui tient. Bon. Alors, si vous êtes dans la partie de gauche, si vous m'entendez aujourd'hui et si vous dites c'est quand même con qu'il n'y a personne qui consulte Jean-Yon en ce moment, vous pouvez m'appeler. Moi, je suis disponible. Si je n'ai pas beaucoup de temps, c'est parce que je fais autre chose. Qu'est-ce que je fais autre chose? Vous l'avez deviné. Quand j'ai vu arriver ChatGPT 4, j'ai dit la cavalerie, et c'est la cavalerie. Et c'est un peu plus, il y a plus d'un an, on avance bien, tous ceux qui l'utilisent avancent bien. Vous allez voir les journaux, vous allez voir ces jours-ci. Ah, on a atteint un plafond, etc. Oui, on ne sait pas trop ce qu'on va encore faire, etc. C'est bidon, c'est de la propagande, il n'y a rien, rien, rien pour soutenir ça. S'il y a un article qui est pas mal fait et qui vous montre un problème que ChatGPT ne peut pas résoudre. Bon, pourquoi allez, je vais le dire en vitesse. Ces machines sont comme nous. Il y a des choses qu'on peut résoudre par intuition ou par calcul mental. Bon, on arrête un petit peu, non, on réfléchit pas trop. Alors, cette fois, ça fait 8,56, puis multiplié par 2, ça fait quoi? Ça fait 112, etc. Bon, ça, on peut faire. On peut faire de l'intuition, dire, ah ben oui, mon sentiment, à vue de nez, etc., c'est comme ça. Et on peut faire du calcul mental. Ça, la machine le fait déjà, les grands modèles de langage. Prendre un problème qui est compliqué, prendre un bout de papier et un crayon et dire, bon, alors, il faut faire ça dans cet ordre-là, etc. Ça, la machine est comme nous. Et on ne lui laisse pas le temps pour prendre un papier et un crayon. On veut qu'elle fasse tout par intuition. Alors, il y a des choses qu'elle va devoir faire aussi comme nous, de manière délibérée, en faisant du calcul. En prenant un papier et un crayon. Et c'est sur ces choses-là qu'il y a encore un peu d'amélioration qui peuvent se faire. Mais chaque jour, vous pouvez voir aujourd'hui une nouvelle vidéo de Wes Ross, un Américain qui fait des évaluations. Il regarde une nouvelle version de c'est quoi la version sonnée de Claude 3. Et bon, là où. Quand on regarde les benchmarks, les comparaisons, allez, ça fait quand même un an où on donne une note à l'humain. Et ça, bon, il y a encore un truc là sur mon ordinateur. On donne une note à l'humain, il fait 49. Bon, on prend l'humain, voilà, on prend les humains, vraiment les grands experts de la question. Alors, on arrive à 54. Et puis on demande à la machine, il y en a une qui fait 62, il y en a fait 63, et c'est tout au-dessus. Hein. C'est tout au-dessus. Et sur un de ces benchmarks, Wes Ross nous présente ce matin, voilà, sur des tâches de type voilà, faire du codage, 92, une note de 92 pour la machine, alors que l'humain arrive à du 60, etc., en ramant. Donc il faut utiliser ça, il faut utiliser la capacité de cette machine à ne pas réfléchir en silo, et j'avance de ce côté-là. Alors pourquoi est-ce que je ne suis pas tellement disponible? Parce que je fais un truc, j'ai vu, il y a un concours, il y a un grand concours, un grand concours. Bon, il faut savoir écrire en anglais ou en chinois, mais c'est un grand concours qui se met au niveau de ces concours que Jean-Jacques Rousseau a gagné avec son essai sur les origines de l'inégalité, origines et les fondements de l'inégalité, son discours sur l'art et les sciences. Et on dit aux gens qui font le concours, voilà le modèle, voilà le modèle de ce qu'il faut faire pour gagner le prix. Bon, donc il place la barre assez haut. Alors, on s'adresse à un certain nombre de personnes. J'ai reçu un courrier personnalisé en disant, on aimerait bien que vous participiez. J'ai réfléchi un moment et c'est une manière, voilà, c'est une manière de réfléchir au problème dans sa globalité, de faire un essai dans le style des essais que faisait Rousseau. Alors, c'est pas évident. La barre est placée haut et donc je travaille à ça depuis 2 mois, deux mois et demi. La date des dépôts, le deadline, c'est le 30 juin. Donc, il va falloir que je m'y mette un petit peu pour terminer. Mais je suis dans la dernière ligne droite. Mais du coup, ça demande un boulot quand même énorme. Là, il ne s'agit pas de dire des conneries. Il ne s'agit pas de recycler des trucs de Claude 3 ou de ChatGPT. Non, il faut venir avec voilà. Il faut produire quelque chose du niveau que la machine ne peut pas encore atteindre sur ces trucs-là. C'est pas évident. On m'a envoyé hier soir. Il m'a pas répondu. J'étais prêt à le publier aussitôt sur le blog. C'est une pièce de théâtre sur La vie d'Althusser, oui. Et mon correspondant demande à la machine d'en faire une pièce qui soit entièrement réglée par la dialectique de type marxiste. Bon, et la machine le fait les doigts dans le nez. J'aimerais bien vous le montrer. Le texte de départ devait être déjà pas mal, mais. Et un petit commentaire de celui qui m'envoie ça. Alors, il me dit un exemple de plus de la machine arriérée. Non, il y a moyen d'obtenir des conneries en posant des questions idiotes à la machine, mais il y a moyen de la faire surpasser ce que font les êtres humains très très facilement en posant les questions comme je l'ai fait l'autre jour. Imaginez que vous êtes un philosophe de haut rang et répondez à mes questions si vous voulez bien. Bon, et la machine répond comme un philosophe de haut rang. Si vous lui dites, vous êtes expert dans tel domaine en mathématiques et je vous pose cette question, la machine répond comme l'expert dans ce domaine-là. Elle a accès à tout ça. Oui, il y a des trucs, voilà, où elle doit soit s'asseoir comme nous et faire un raisonnement de manière un peu délibérée. Là, il y a encore un peu de progrès à faire, mais elle va faire comme nous. C'est là qu'on peut mobiliser tout ce que l'intelligence artificielle a fait dans le domaine de ce qu'on appelle le symbolique, des algorithmes pour résoudre des problèmes. Il n'y a pas de raison de lui demander de faire intuitivement tout ce que nous faisons par des raisonnements compliqués. Si on connaît la formule, la machine peut l'utiliser aussi. Voilà. Alors, donc, je termine. J'ai commencé par une petite plaisanterie qui vous étonnera pas, mais on peut m'appeler. De toute manière, mon essai, je devrais avoir terminé ça. Je voudrais être prêt lundi matin. Ça nous fait quoi? Vendredi, samedi, dimanche? Oui, 3 jours, ça paraît raisonnable. Voilà, allez, à bientôt et appelez-moi si vous le jugez bon. Sinon, effectivement, si vous pensez que toutes les idées sont déjà là sur mon blog ou dans mes bouquins, c'est pas la peine, effectivement, de me consulter. Je crois avoir expliqué ce que j'ai à dire dans le domaine de la finance en particulier, clairement dans ce que j'ai pu écrire. Voilà, allez, à bientôt.